Chapitre 9. Damnation. Dix personnes avec des lames d'éclat flamboyantes qui se tenaient devant un mur noir, blanc et rouge. Recueilli, chez Achève 1173, 12 secondes avant la mort. Sujet, une de nos propres ardentes, entendue lors de ses derniers instants. Kaladin n'avait pas été affecté par hasard au pont 4. De toutes les équipes de pont, la 4 possédait le taux de perte le plus élevé. C'était particulièrement remarquable dans la mesure où les équipes de pont perdaient en moyenne un tiers à une moitié de leurs effectifs lors d'une seule course. Kaladin était assis à l'extérieur, adossé au mur de la baraque, tandis qu'une pluie fine tombait sur lui. Ce n'était pas une tempête majeure, rien qu'une pluie ordinaire de printemps, douce, timide cousine des grands orages. Syl était assise sur l'épaule de Kaladin, ou planète au-dessus, plutôt. Elle ne semblait posséder aucun poids. Kaladin se tenait affalé, menton sur la poitrine, regardant fixement une déclivité de la pierre qui recueillait lentement de l'eau de pluie. Il aurait dû s'installer dans la baraque du pont 4. Elle était froide et dépourvue d'ameublement, mais elle tiendrait la pluie à distance. Cependant, il ne parvenait tout simplement pas à s'en soucier. Depuis combien de temps faisait-il partie du pont 4 à présent? 2 semaines? 3? Une éternité? Des 25 hommes qui avaient survécu à son premier déploiement du pont, 23 étaient morts à présent. 2 avaient été affectés à d'autres équipes parce qu'ils avaient fait quelque chose qui avait satisfait Gaz. Mais ils y étaient morts. Seuls restaient Kaladin et un autre homme. 2 sur près de 40. Les effectifs des équipes avaient été complétés par d'autres malchanceux, dont la plupart étaient morts à leur tour. Ils avaient été remplacés. On avait désigné un chef de pont après l'autre. C'était censé être un poste privilégié dans une équipe de pont, car il était toujours autorisé à courir à la meilleure place, ce qui n'avait aucune importance pour le pont 4. C'était rare. Curieusement, le pont 4 semblait toujours être choisi comme cible. Kaladin ne prenait pas la peine d'apprendre le nom de ses compagnons. Les autres hommes de pont non plus. À quoi bon? Vous appreniez le nom d'un homme et l'un de vous deux serait mort avant la fin de la semaine. Selon toute probabilité, vous seriez morts tous les deux. Peut-être faudrait-il tout de même qu'il apprenne les noms. Ainsi, il aurait quelqu'un à qui parler dans la damnation. Ils pourraient évoquer leurs atroces souvenirs du pont 4 et s'accorder à trouver les feux éternels bien plus plaisants. Avec un sourire las et narquois, il continuait à regarder fixement la pierre devant lui. Gaz viendrait bientôt les chercher pour les envoyer au travail, récurer les latrines, nettoyer les rues, les écuries, rassembler des pierres, quelque chose qui leur permettrait de penser à autre chose qu'à leur sort. Il ignorait toujours pourquoi il se battait sur ces plateaux balayés par les vents. C'était lié à ces grandes chrysalides. Elles possédaient des gemmes en leur cœur, apparemment. Mais quel rapport avec le pacte de vengeance? Un autre homme de pont, un jeune védène aux cheveux blonds roux, était étendu non loin de là, levant les yeux vers le ciel humide. L'eau de pluie s'accumulait au coin de ses yeux marrons, puis coulait le long de son visage. Il ne clignait pas des paupières. Il ne pouvait pas s'enfuir. Ce camp de guerre était quasiment une prison. Les hommes de pont pouvaient aller voir les commerçants et dépenser leurs maigres gains pour du vin bon marché ou des prostituées, mais ils ne pouvaient pas quitter le camp. Le périmètre était sécurisé. C'était en partie pour tenir à distance les soldats des autres camps. Il y avait toujours des rivalités lorsque des armées se croisaient. Mais pour l'essentiel, c'était pour empêcher esclaves et hommes de pont de s'enfuir. Pourquoi donc? Pourquoi fallait-il que tout soit horrible à ce point? Rien de tout ça n'avait de sens. Pourquoi ne pas laisser quelques hommes courir devant les ponts avec des boucliers pour arrêter les flèches? Quand il avait posé la question, on lui avait répondu que ça les ralentirait trop. Il l'avait répété, et on lui avait dit qu'on le pendrait aux tempêtes s'il ne la bouclait pas. Le Palyris se comportait comme si toute cette pagaille était une sorte de jeu à grande échelle. Si c'était le cas, les règles étaient cachées aux hommes de pont, de la même manière que les pièces d'un jeu ignoraient tout de la stratégie du joueur. « Kaladin ?» demanda Syl, qui descendit en flottant pour atterrir sur sa jambe. affichant sa forme de fillette dont la longue robe se fondait dans la brume.
Kaladine, tu n'as rien dit depuis des jours.
Il continua à regarder devant lui, affalé sur lui-même. Il existait une issue. Les hommes de pont pouvaient se rendre au gouffre le plus proche du camp. Des règles l'interdisaient, mais les sentinelles les ignoraient. C'était considéré comme la plus grande clémence que l'on puisse accorder aux hommes de pont. Ceux qui empruntaient ce chemin ne revenaient jamais.
« Kaladine ?»
demanda-t-il d'une voix douce et inquiète.
Mon père disait toujours qu'il y avait deux sortes d'hommes au monde, chuchota Kaladine d'une voix râpeuse. Il disait qu'il y avait ceux qui prenaient des vies et ceux qui les sauvaient.
S'il pencha la tête, l'air songeur, ce genre de conversation la laissait perplexe. Elle avait du mal avec les abstractions.
Avant, je croyais qu'il avait tort, qu'il existait une troisième catégorie, ceux qui tuaient pour sauver. Il secoua la tête. J'étais stupide. Il existe bien une troisième catégorie, et une grande. Mais ce n'était pas ce que je croyais.
Laquelle ?
Demanda-t-elle en s'asseyant sur son genou, plissant le front. Les gens qui n'existent que pour se faire sauver ou se faire tuer. La catégorie intermédiaire. Les gens qui ne peuvent rien faire d'autre que mourir ou se faire protéger. Les victimes. C'est tout ce que je suis. Il leva les yeux pour regarder de l'autre côté du dépôt de bois humide. Les charpentiers s'étaient retirés et s'affairaient à jeter des bâches par-dessus le bois non traité et à emporter les outils qui risquaient de rouiller. Les baraques des hommes de pont longeaient les côtés ouest et nord du dépôt. Celle du pont 4 se situait un peu à l'écart des autres, comme si la malchance était une maladie que l'on pouvait attraper. « Contagieuse par proximité », aurait dit le père de Kaladine.
« Nous n'existons que pour nous faire tuer », dit Kaladine.
Il cligna des yeux et regarda les quelques autres membres du pont 4 qui étaient assis sous la pluie, apathiques. « Si nous ne sommes pas déjà morts. »
« Je déteste te voir comme ça »,
déclara Syl, qui tournait autour de la tête de Kaladine en bourdonnant, tandis que son équipe d'hommes de pont traînait un rondin jusque dans le dépôt de bois. Les Parchendi se seraient peut-être demandé pourquoi les armées ne déployaient pas plus d'efforts pour défendre les ponts.
« Quelque chose ne tourne pas rond ici », dit une voix en lui. « Une partie du tableau t'échappe. Il gaspille les ressources et les vies des hommes de pont. Il ne semble pas se soucier de progresser pour attaquer les Parchendi. Il se contente de livrer des batailles rangées sur des plateaux, puis reviennent au camp pour faire la fête. Pourquoi donc ? Pourquoi ?»
Il ignora cette voix. Elle appartenait à l'homme qu'il avait été.
Avant, tu étais dynamique, lui dit Syl. Tant de gens t'admiraient, Kaladine, ton escouade de soldats, les ennemis que tu combattais, les autres esclaves, même certains pâles iris.
Le déjeuner arriverait bientôt. Ensuite, ils pourraient dormir jusqu'à ce que leur chef de pont le réveille d'un coup de pied pour les tâches de l'après-midi.
Je te regardais te battre. Poursuivit Syl. Je m'en souviens à peine. Mes souvenirs de cette époque sont flous, comme si je te regardais à travers une pluie torrentielle.
Un instant. C'était curieux. Syl n'avait commencé à le suivre qu'après son renvoi de l'armée, et elle se comportait alors comme n'importe quel autre sprenne du vent. Il hésita, ce qui lui valut une injure et un coup de fouet dans le dos de la part d'un contremaître. Il se remit à tirer. Les hommes de pont qui traînaient à la tâche se faisaient fouetter, et ceux qui traînaient lors des courses se faisaient exécuter. L'armée était très sérieuse sur ces points. Si vous refusiez de charger les Parchendi, si vous tentiez de traîner derrière les autres ponts, vous vous faisiez décapiter. Un châtiment spécifique à ce crime-ci. Il y avait bien des manières de se faire punir en tant qu'homme de pont. On pouvait récolter un supplément de corvée, se faire fouetter, se voir supprimer sa paix. Si l'on commettait quelque chose de vraiment grave, on vous pendait aux tempêtes pour attendre le jugement du père des tempêtes, en vous laissant attacher à un poteau ou à un mur pour affronter une tempête majeure. Mais la seule chose qui puisse conduire à votre exécution directe était le refus de courir vers les Parchendi. Le message était clair. Charger avec votre pont risquait peut-être de vous faire tuer, mais vous y refuser le ferait sûrement. Kaladine et son équipe hissèrent leur rondin au-dessus d'une pile avec les autres, puis décrochèrent leurs cordes de tirage. Ils regagnèrent la lisière du dépôt de bois où les attendaient d'autres rondins.
« Gaz !»
le héla une voix. Un soldat de grande taille aux cheveux noirs et blonds se tenait au bord du territoire des ponts, avec un groupe d'hommes à l'air pitoyable, pelotonné derrière lui. C'était Larèche, l'un des soldats qui travaillait dans la tente d'affectation des corvées. Il amenait de nouveaux hommes de pont pour remplacer ceux qui avaient été tués. Le ciel était dégagé, sans trace de nuages, et le soleil brûlait le dos de Kaladine. Gaz se précipita à la rencontre des nouvelles recrues et par hasard, Kaladine et les autres marchaient dans cette direction pour s'emparer d'un rondin.
« Quelle bande pitoyable !» commenta Gaz en inspectant les recrues. « D'un autre côté, si ce n'était pas le cas, on ne les enverrait pas ici. »
« C'est vrai, » répondit Larèche. « Ces 10 à l'avant ont été surpris à faire de la contrebande. Vous savez que faire. » On avait constamment besoin de nouveaux hommes de pont, mais on leur fournissait toujours assez d'éléments. Les esclaves étaient chose courante, mais tout autant que les voleurs ou les autres criminels de la caravane de civils. Jamais de parches. Ils étaient trop précieux. Et par ailleurs, les parchendi étaient plus ou moins cousins des parches. Mieux valait ne pas offrir aux travailleurs parches du camp le spectacle de leurs semblables en train de se battre. Parfois, un soldat se faisait jeter au sein d'une équipe de pont, ce qui ne se produisait que s'il avait commis quelque chose d'extrêmement grave, comme frapper un officier. Des actes qui vaudraient la pendaison dans bien des armées signifiaient ici qu'on vous envoyait dans les équipes de pont. On disait que si vous surviviez à une centaine de courses au pont, on vous relâcherait. Ça ne s'était produit qu'une ou deux fois, d'après les récits. Ce n'était sans doute qu'un mythe, destiné à donner aux hommes de pont un infime espoir de survie. Kaladine et les autres dépassèrent les nouveaux arrivants, regards baissés, et entreprirent d'accrocher leurs cordes au rondin suivant.
« Le pont 4 a besoin de quelques hommes !»
déclara Gaz en se frottant le menton.
« Le 4 a toujours besoin d'hommes, » répondit Larèche. « Ne vous en faites pas, je vous ai amené un lot spécial pour lui. »
Il désigna un second groupe de recrues beaucoup plus désordonnés qui approchaient derrière. Kaladine se redressa lentement. L'un des prisonniers de ce groupe était un garçon d'à peine 14 ou 15 ans, petit, grêle, avec un visage rond.
« Tien ?» murmura-t-il en avançant d'un pas. Il s'arrêta et se secoua. Tien était mort, mais ce nouvel arrivant semblait si familier, avec ses yeux noirs effrayés. Il lui donnait envie de protéger ce garçon. Mais il avait échoué. Tous ceux qu'il avait tenté de protéger, de Tien à Sen, étaient morts. À quoi bon? Il se remit à tirer le rondin.
« Kaladine, » dit Syl en atterrissant sur le rondin, « je vais partir. »
Il cligna des yeux, stupéfait. Syl, partir? Mais elle était la dernière chose qui lui restait?
« Non, »
murmura-t-il. Le mot sortit sous forme d'un bruit rauque.
« J'essaierai de revenir, » dit-elle. « Mais je ne sais pas ce qui va se passer quand je vais te quitter. Les choses sont étranges. J'ai des souvenirs curieux. Non, la plupart ne sont même pas des souvenirs, des réflexes. L'un d'entre eux me dit que si je te laisse, je risque de me perdre. »
« Alors ne pars pas, » dit-il, de plus en plus terrifié.
« Il le faut, »
répondit-elle en grimaçant.
« Je ne peux plus voir ça. J'essaierai de revenir. »
Elle semblait triste.
« Au revoir. »
Sur ce, elle s'élança dans les airs, adoptant la forme d'une minuscule pluie de feuilles translucides qui tombait en cascade. Kaladine la regarda partir, engourdie. Puis il se remit à tirer le rondin. Que pouvait-il faire d'autre? Le jeune garçon, celui qui lui rappelait Tien, mourut lors de la course suivante. Celle-là fut terrible. Les Parchendi étaient en position pour attendre Sadeas. Kaladine chargea le gouffre sans même broncher, tandis qu'on massacrait les hommes autour de lui. Ce n'était pas le courage qui dictait sa conduite, ni même le souhait que ses flèches l'atteignent et mettent fin à tout ça. Il courait. C'était ce qu'il faisait. Comme un rocher roulant au bas d'une colline, ou la pluie tombant du ciel. Il n'avait pas le choix, lui non plus. Il n'était pas un homme, il était un objet, et les objets faisaient ce qu'on leur dictait. Les hommes de pont posaient leurs ponts en rang serré. quatre équipes étaient tombées. Celle de Kaladin avait perdu presque assez d'hommes pour être contrainte de s'arrêter. Le pont en place, Kaladin se détourna tandis que l'armée chargeait en traversant le bois pour commencer la véritable bataille. Il recula en titubant sur le plateau. Au bout de quelques instants, il trouva ce qu'il cherchait. Le corps du garçon. Kaladin resta planté là, le vent emmêlant ses cheveux, baissant les yeux vers le cadavre. Il reposait sur le dos dans une petite cavité de la pierre. Kaladin se rappela être resté étendu dans une cavité similaire, à tenir un autre corps comme celui-là. Un autre homme de pont était tombé tout près, hérissé de flèches. C'était celui qui avait survécu à la première course au pont de Kaladin toutes ces semaines auparavant. Son corps était affalé sur le côté, étendu sur un affleurement rocheux à une trentaine de centimètres au-dessus du corps du garçon. Du sang coulait de la pointe d'une flèche qui saillait de son dos. Il tombait, une goutte rubis à la fois, pour aller s'écraser dans l'œil ouvert et mort du garçon. Un petit filet rouge coulait de l'œil le long du côté de son visage, comme des larmes cramoisies. Cette nuit-là, Kaladin se tint pelotonné dans la baraque, écoutant la tempête majeure secouer le mur. Il se recroquevilla contre la pierre froide. Le tonnerre déchirait le ciel au dehors. « Je ne peux pas continuer comme ça, » songea-t-il. « Je suis mort à l'intérieur, aussi sûrement que si j'avais reçu une lance dans le cou. » La tempête poursuivait sa diatribe. Et pour la première fois depuis plus de 8 mois, Kaladin se surprit à pleurer.